France Info.
France Info.
Oui, la puissance de la recherche doit servir à créer de la richesse et donc de l'emploi. C'est une conviction qui est martelée ici. Et la région pullule de dispositifs destinés à encourager et à aider les étudiants dès la première année à formuler des projets innovants et à essayer de leur trouver un business model, un modèle économique.
Exemple au MIT.
Absolument, avec le MIT Venture Mentoring Service, c'est un service créé en l'an 2000. Il propose aux jeunes entrepreneurs d'être accompagnés par des tuteurs. Vous en avez 180, tous sont bénévoles, tous ont créé des entreprises qui ont réussi. Ils ont interdiction de se faire rémunérer pour les services qu'ils vont rendre ou de prendre des parts dans les entreprises qu'ils aident, cela afin d'éviter les conflits d'intérêts. Parmi ces entreprises qui rentrent, il y a 8 ans, il y a eu celle de Tristan Jehan. C'est un diplômé en sciences de l'université de Rennes. Il était venu compléter ses études d'abord à Berkeley en Californie, puis au MIT. Scientifique et musicien, il a alors l'idée d'une technologie qui permet de puiser dans toutes les ressources disponibles sur Internet afin de créer des programmations musicales cohérentes, comme des radios en fait, hein, thématiques de manière automatique.
Le genre de service qu'offre un site comme Spotify ?
Oui, et bien vu d'ailleurs parce que Spotify vient d'acheter l'entreprise, hein, mais le succès n'est pas venu en un jour parce que The Echo Nest, c'est son nom, a mis plusieurs années à trouver un équilibre économique, des années au cours desquelles Tristan s'est régulièrement tourné vers son mentor et sans cela, il aurait probablement eu beaucoup de mal. Au début, dit-il, j'ignorais absolument tout de la façon de créer, de gérer, de développer une entreprise. C'est aussi le genre de service que vous avez ici proposé par le Martin Trust for Entrepreneurship qui a développé un programme accessible dès le début des études et là aussi, on passe directement aux travaux pratiques, on plonge dans le bain. Notre conviction, c'est qu'on peut apprendre à devenir entrepreneur, explique Kyle Judah, mais ce n'est pas inné. Ceci dit, il faut apprendre en faisant.
Et ce qui renvoie justement à cette croyance dans le learning by doing, comme dont vous nous avez déjà parlé.
Voilà, et qui est vraiment le mot d'ordre, la devise du MIT, et vous ajoutez à cela une considération beaucoup plus pragmatique. La fenêtre de tir pour créer une entreprise est étroite, rappelle Kyle Judah du Martin Trust. Lui-même est passé par là. Il dit qu'une fois qu'on doit rembourser son prêt étudiant, acheter un logement, nourrir une famille, on va hésiter à prendre des risques. Et je rappelle que pour des diplômés d'institutions comme Harvard ou le MIT, il est courant de devoir rembourser 100 000 dollars ou plus qu'on a dû emprunter pour étudier. Et c'est une angoisse de plus en plus forte aux États-Unis où le montant de l'encours de la dette étudiante a récemment dépassé 1 000 milliards de dollars.
Alors Emmanuel, justement, qui finance toutes ces structures ? Les universités ?
Eh bien, pas toujours, et c'est assez étonnant d'ailleurs, et quand elles le font, c'est dans des proportions assez modestes. En fait, la plupart lèvent des fonds, notamment auprès d'anciens étudiants qui ont réussi. De la même façon qu'ils acceptent de donner du temps pour faire du tutorat, beaucoup sont prêts à donner de l'argent pour leur université. C'est vraiment une tradition ici. Hein. Le Martin Trust nous expliquait qu'il vient de recevoir un don de 5 millions de dollars d'un particulier.
Alors, ces programmes destinés à favoriser la création d'entreprises profitent aussi de la proximité de financeurs et de grandes entreprises.
Voilà, ce qui est très spectaculaire, c'est que tout se joue sur quelques kilomètres carrés. On peut quasiment tout faire à pied. Mais ce qui est frappant aussi, c'est qu'il y a malgré tout une densité d'espaces de formation, d'espaces de rencontres, d'espaces de networking, comme ils disent ici, de réseautage. Les investisseurs sont à deux pâtés de maison de chez nous, explique Kyle Judah. C'est une chance, mais c'est aussi un risque. Il ne faut surtout pas frapper à leur porte tant qu'on n'est pas prêt.
Alors la vigueur de cet écosystème de la route 128 ne doit bien sûr rien au hasard.
Voilà, on parle souvent du tempérament entreprenant des étudiants américains. En fait, c'est vraiment le produit d'un discours entêtant, parfois enivrant. Hier, nous avons rencontré des étudiants français de Harvard et du MIT et ils ont manifesté une petite irritation face à ce discours. L'un d'entre eux nous disait, à chaque fois que je croise un étudiant, il me dit qu'il va créer une entreprise, même s'il n'a pas le commencement d'une idée. Il n'empêche, l'un d'entre eux a confessé avoir monté une start-up avec un ami, presque, dit-il, par accident.
Alors, ce discours sur l'entrepreneuriat existe aussi en France. Qu'est-ce qui le distingue ?
Plusieurs choses. D'abord, les programmes dédiés à la création d'entreprises, à de rares exceptions près, ne commencent qu'au niveau du master. Ensuite, ils sont surtout académiques. On n'a pas cette culture du learning by doing, de l'apprentissage grandeur nature, à l'exception notable des junior entreprises, mais elles passent rarissimement le cap pour devenir de vraies entreprises. Les sommes en jeu sont également beaucoup plus modestes. Alors, pas tellement au début. Hein. On a en France des dispositifs assez attractifs pour lancer l'entreprise, mais les start-upers ont beaucoup plus de mal à trouver des investisseurs pour la deuxième phase, celle où il faut financer la croissance rapidement. Si je reviens à l'exemple d'Econest, et de Tristan, il a levé plus de 20 millions de dollars en 4 ans alors que son entreprise ne gagnait pas encore un centime. Et puis au bout du compte, les investisseurs s'y sont retrouvés puisque même s'il n'a pas dévoilé le montant de la transaction, son entreprise, quand elle a été vendue à Spotify, fait partie des 28 entreprises lancées avec l'appui du Venture Mentoring Service qui ont été valorisées à plus d'un milliard de dollars. Notamment ce type d'investisseurs qui sont plus difficiles à trouver chez nous. Or, ils ont un déterminant, notamment dans le numérique, où vous devez imposer votre technologie très vite si vous ne voulez pas être dépassé par les autres. Et puis enfin, il existe aussi ici beaucoup plus de structures qui organisent la rencontre entre la recherche, l'industrie et les investisseurs. Une rencontre évidemment facilitée par le fait que vous n'avez pas de défiance mutuelle entre le monde de l'université et le monde de l'entreprise, ce qui n'est pas encore forcément le cas en France.